Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
We gather because we have chosen hope over fear.
USA Hebdo, Philippe Marty sur BFM Radio.
Bonjour à tous, USA Hebdo sur BFM Radio, vous le savez, c'est l'émission de toute l'actualité américaine de la semaine. Au sommaire de ce numéro de USA Hebdo, la nomination de Sonia Sotomayor, qui sera la première juge d'origine hispanique à accéder à la Cour suprême, le déplacement d'Hillary Clinton en Afrique, la Maison Blanche qui fait la chasse aux rumeurs, quitte même à agacer la presse, et bien entendu, vous aurez rendez-vous avec vos chroniques habituelles, tous les bons plans et les bonnes idées pour partir aux États-Unis, notre carte postale de la Silicon Valley et le point sur une semaine à Wall Street, et bien évidemment, nous irons aussi à la rencontre des chefs d'entreprise français installés aux États-Unis. Ils nous racontent leur succès. Restez avec nous, USA Hebdo sur BFM Radio, ça commence maintenant. Et avec nous pour évoquer l'actualité de la semaine, Paul Jorion, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, je crois que vous êtes en vacances.
Vous êtes... j'habite la Bretagne maintenant.
D'accord. Alors vous êtes docteur en sciences sociales de l'Université Libre de Bruxelles et diplômé en sociologie et en anthropologie sociale. Et vous connaissez bien les États-Unis pour y avoir été enseignant, c'est cela ?
Non, je n'étais pas enseignant. Je travaillais dans le domaine de la finance, je travaillais dans le crédit aux consommateurs.
D'accord. Alors avant d'évoquer ensemble l'actualité de la semaine, il est tout de même une bonne nouvelle, en tout cas, qui est sortie il y a quelques heures. La baisse au mois de juillet du chômage aux États-Unis. Le taux de chômage est descendu à 9,4% contre 9,5% le mois précédent. C'est la première baisse depuis le mois d'avril 2008. Et selon la Maison Blanche, on s'éloigne du gouffre. Vous avez un commentaire, Paul Jorion ?
Oui, c'est que ces calculs ne sont pas très convaincants. Ce sont des calculs qui sont corrigés par non seulement par des corrections saisonnières, mais c'est aussi des calculs qui tiennent compte de corrections qui sont uniquement valables dans des situations normales de l'emploi et de l'économie. Donc, on va sans doute. Ce sont des chiffres qui seront sans doute revisés à la baisse le mois prochain.
Oui, donc il n'y a pas de quoi pour l'instant, évidemment, crier victoire. On s'éloigne du gouffre, c'est simplement, on va dire, un effort de communication de la part de la Maison Blanche.
Oui, parce qu'en fait, comme on voit, le chômage continue d'augmenter. Il n'augmente pas de manière aussi dramatique que ça a été dans le cas, mais en fait, ce sont encore toujours des chiffres en hausse.
Alors, une information également qui a fait couler beaucoup d'encre, USA Hebdo s'en est d'ailleurs fait l'écho à plusieurs reprises, c'est la nomination de Sonia Sotomayor, 55 ans, qui est la première juge d'origine hispanique à accéder à la Cour suprême, et la troisième femme, elle rejoint les 8 sages qui sont élus à vie et qui veillent sur la Constitution américaine. Alors, 3/4 environ des sénateurs républicains désapprouvent cette nomination, mais comme aucun démocrate n'a exprimé son opposition, la nomination est, semble-t-il, passée sans difficulté. Cette nomination relance le débat sur la discrimination positive aux États-Unis, selon vous ?
C'est-à-dire qu'il y a quand même eu quelques votes républicains. Donc ça, c'est assez neuf parce qu'on imaginait qu'avec le profil qu'on appelle activiste aux États-Unis de cette personne, qu'il y aurait plus d'opposition. Alors c'est relativement une bonne nouvelle. C'est une personne libérale, comme on dit aux États-Unis. C'est-à-dire, en fait, le terme veut dire progressiste aux États-Unis. Elle a fait des déclarations dans le passé de type féministe, de type extrêmement progressiste. Donc elle va constituer un élément de gauche dans la balance de la Cour suprême. La Cour suprême aux États-Unis, comme on le sait, c'est un élément extrêmement important dans la politique.
Alors, est-ce que vous pensez que c'est un symbole fort pour notamment toute la communauté hispanique américaine qui, il faut le rappeler quand même, est la plus importante aux États-Unis et qui, parfois en tout cas, se sent particulièrement exclue du fonctionnement du pays ?
Oui, encore qu'il y ait plusieurs communautés hispaniques aux États-Unis. Vous savez, il y a une très forte immigration d'origine mexicaine. Madame Sotomayor, elle, est de Puerto Rico. C'est perçu dans le monde hispanique comme extrêmement différent. Mais en fait, bon, c'est une personne qui vient d'un milieu modeste, qui a bénéficié effectivement d'une discrimination positive pour arriver à l'université et pour obtenir un diplôme. C'est une personne qui représente effectivement un élément extrêmement progressiste dans le paysage et assez rare, il faut bien dire, effectivement, dans le cadre de la Cour suprême.
Alors pourquoi cette nomination fait-elle autant de vagues ? Est-ce que la question des origines, on avait parlé la semaine dernière par rapport à cette rumeur sur les origines de Barack Obama, est-ce que la question des origines aux États-Unis n'est toujours pas réglée ? C'est pour ça que cette nomination fait débat ?
Je crois que c'est surtout lié au fait que la polarisation politique aux États-Unis est en train de se marquer de plus en plus. Il y a une opposition de plus en plus marquée. Les extrêmes sont en le vent en poupe. Mmh. Et je crois que c'est ça que l'on voit dans ce cas-ci. Le Parti républicain devient extrêmement radical, adoptant des positions vraiment proches de l'extrême droite. Il y a eu, avec l'élection d'Obama, une relance des mouvements plutôt, du courant plutôt de gauche ou d'extrême gauche à l'intérieur du Parti démocratique. Et en particulier, on en parlera peut-être tout à l'heure, dans le domaine de l'assurance maladie, et en ce moment, la polarisation prend une dimension assez dramatique, puisqu'il y a, des éléments d'affrontement, même dans des réunions de quartier.
Alors, à votre avis, Paul Jorian, que peut-elle changer au sein de cette cour? Que va-t-elle apporter?
Moi, je crois qu'elle va apporter un élément, oui, effectivement, un élément social. Et comme vous savez, dans l'histoire des États-Unis, les cours suprêmes ont en général été plutôt de droite. Et elles ont pesé très fort. Comme vous le savez, on n'aurait probablement pas eu le président Bush, on aurait eu Monsieur Gore s'il n'y avait pas eu la Cour suprême. Et à l'époque du New Deal de Roosevelt, la Cour suprême, qui était marquée très à droite, a essayé de saboter cette politique pendant plusieurs années. Et elle, si la guerre n'avait pas éclaté, elle aurait probablement gagné. Donc la Cour suprême est un élément extrêmement important dans le paysage politique américain. Et comme vous le savez aussi, bon, la question de l'avortement aux États-Unis, c'est une question qui se juge uniquement en termes de précédent, ce n'est pas une loi. Et chaque fois qu'il y a une modification dans la composition de la Cour suprême, il y a un débat de savoir si le fameux Roe versus Wade, qui est la décision sur l'avortement, si ça ne va pas être renversé à la suite d'un changement de d'alliance.
Et vous pensez réellement que Sonia Sotomayor va pouvoir apporter quelque chose de plus, ou c'est une voix qui va se diluer dans la voix des neuf sages de cette cour?
Non, chacune de ces personnes est très très importante, et comme vous savez, il y a pas mal de personnalités, je dirais, relativement excentriques, c'est-à-dire excentriques dans le sens où ils prennent parfois des positions très conservatrices et à d'autres occasions des positions très très progressistes. Donc c'est toujours chaque personnalité compte.
D'accord. Alors depuis mardi dernier jusqu'à mardi prochain, Hillary Clinton est sur le continent africain. La secrétaire d'État visite des pays aussi différents que le Nigeria et le Cap-Vert, en passant par l'Afrique du Sud, l'Angola, la République démocratique du Congo, le Nigeria et le Libéria. Elle a d'ailleurs débuté son voyage par le Kenya, pays dont le père de Barack Obama était citoyen. À votre avis, Paul Jorian, c'est un symbole important, fort?
Madame Clinton est une personnalité. C'est une personnalité importante. On sait l'importance qu'elle a jouée à l'époque où son mari était président. C'est une forte personnalité. Elle est très, démocrate de façon très traditionnelle. Elle attache beaucoup d'importance aux libertés. Et le message que j'ai entendu prononcer par elle un peu partout dans la plupart des pays ont été des messages de soutien de valeurs démocratiques fortes.
Et donc ce voyage d'Hillary Clinton intervient donc 3 semaines après le déplacement du président américain au Ghana. Faut-il y voir là pour le coup la volonté des États-Unis de tisser enfin, on pourrait dire, des liens solides avec l'Afrique?
Mais comme vous savez, bon, la politique étrangère des États-Unis a toujours été fortement dominée par des considérations assez bassement commerciales. Oui. Je crois que la présence montante de la Chine en Afrique n'est pas étrangère du tout à la présence de Madame Clinton, portant un message assez différent de ce qu'on a entendu jusqu'ici. On a pensé avec Monsieur Obama à un changement assez radical, et curieusement l'élément de nouveauté, c'est apparemment Madame Clinton qui l'apporte.
Oui, alors la Chine était donc l'invitée de Washington il y a encore une petite quinzaine de jours. On sent, comme vous le disiez, une vraie rivalité entre la Chine et les États-Unis, avec l'Afrique au milieu. C'est un petit peu ce que vous voulez nous signifier.
C'est-à-dire que la Chine utilise ses dollars en ce moment pour acheter des valeurs sûres, pour acheter des mines à différents endroits, pour placer cet argent dans l'énergie et également dans la terre. Elle se positionne en Afrique comme étant un petit peu une terre vierge, bien entendu, du point de vue de l'évolution des choses. Et il est important pour les États-Unis de se placer aussi en Afrique, continent qui a été très très négligé évidemment par les les États-Unis.
Il a été négligé sur le plan commercial sans doute, mais aussi sur le plan humanitaire. Est-ce qu'on peut imaginer que les États-Unis renforcent leur participation, qui est déjà de près, je crois, de 19 milliards de dollars, dans la lutte contre le sida sur le continent africain ?
Je ne sais pas, le sida n'a plus l'air d'être fort au rang des priorités. Non, ce qui est important, c'est évidemment c'est la géostratégie, et on va essayer de voir, on verra nécessairement les États-Unis se positionner dans les endroits où la Chine s'est présentée en force au cours des 5 dernières années.
Paul Jorion, vous souhaitiez qu'on développe aussi ensemble le voyage de Bill Clinton en Corée du Nord. Est-ce que vous auriez quelques éléments à nous apporter, ou en tout cas une réflexion? Ça vous paraissait, vous me disiez hors antenne tout à l'heure, l'élément le plus curieux de cette semaine d'actualité aux États-Unis?
Oui, effectivement, parce que en parallèlement au voyage de Madame Clinton en Afrique, on a eu cet élément tout à fait imprévu, qui était le voyage de Monsieur Bill Clinton lui-même en Corée du Nord pour assurer la libération de deux entre guillemets espions américains. Et sa présence a donné lieu apparemment à des discussions très importantes entre la Corée du Nord et les États-Unis, des discussions qui n'avaient jamais eu lieu auparavant, et qu'apparemment le président nord-coréen avait espéré avoir il y a de très très nombreuses années. L'administration Obama s'est trouvée tout à fait à contre-pied devant cette initiative, qu'elle a essayé de minimiser d'abord, parce qu'on avait une semaine politique qui était non seulement dominée d'abord par le voyage de Mme Clinton en Afrique, et qui tout à coup se doublait de la présence de Bill Clinton lui-même en Corée du Nord, ayant apparemment une mission qui allait bien au-delà de ce qui avait été défini au moment de son départ. Et ça donne une impression très curieuse. Les conseillers de M. Obama, quand il a signalé leur nom à la fin de l'année dernière, avant de prendre fonction, contenaient un nombre impressionnant de personnes qui avaient appartenu à l'administration Clinton. Et ceci, cette semaine, on voit, alors que M. Obama lui-même est assiégé sur plusieurs fronts, son incapacité à dominer Wall Street, son incapacité à faire démarrer son plan d'assurance maladie, on voit l'actualité aux États-Unis dominer entièrement sur le plan extérieur par ces deux personnes, M. Bill Clinton, ancien président, et son épouse.
Oui, c'est vrai, c'est assez cocasse. Vous restez avec nous, Paul Jorion. On se retrouve dans la quatrième partie de USA Hebdo pour le reste de l'actualité américaine de la semaine. USA Hebdo continue sur BFM Radio dans une poignée de secondes, direction Wall Street et nos chroniqueurs habituels. Restez avec nous.
BFM Weekend. Le Deloitte Technologies Fast 50, c'est aujourd'hui le palmarès de référence des champions de la croissance dans le domaine des technologies. Dirigeants d'entreprise, vous souhaitez plus que jamais mettre en valeur la qualité de vos performances et de vos produits, renforcer la mobilisation de vos équipes, développer de nombreux contacts clients et investisseurs? Rejoignez dès à présent la communauté Fast 50 en inscrivant gratuitement votre entreprise à la 9e édition. Pour tout savoir sur ce palmarès organisé par Deloitte en partenariat avec BFM Radio, rendez-vous sur deloitte.fr.
Que dit l'économie cette semaine ? Vincent Beaufils, directeur de la rédaction de Challenge.
Comment les riches ont traversé la crise ? Challenge sort son classement 2009 des 500 fortunes de France avec le nouvel état de leur patrimoine. La vraie histoire de la réconciliation Pinault-Arnault, la saga de Robert-Louis Dreyfus et le secret des dynasties inoxydables. Cet été, un numéro spécial de Challenge.
Dans un environnement financier plus incertain, le conseil d'un professionnel est plus que jamais indispensable, tant pour les particuliers que pour les entreprises. Filiale du groupe Allianz, W Finance est spécialisée dans le conseil en investissement et l'élaboration de solutions patrimoniales et fiscales personnalisées depuis près de 40 ans. Entreprises, particuliers, retrouvez-nous sur wfinance.com. Et vous, professionnels, puisque nous recherchons des conseillers et des managers à travers la France, déposez votre candidature sur l'onglet « Nous rejoindre ».
USA Hebdo, Philippe Marty sur BFM Radio.
Et USA Hebdo sur BFM Radio, ça continue. Tout de suite, un point sur la semaine à Wall Street avec Louis Capital Markets et Ariane Fertou. Bonjour Ariane.
Bonjour Philippe.
Alors en cette période estivale, quel est le grand gagnant de cette semaine sur les marchés américains ?
Le gagnant de la semaine est MBIA, après avoir publié de très bons résultats au deuxième trimestre qui ont étonné et satisfait les investisseurs. L'action prenait près de 40% cette semaine.
Et le perdant ?
Le perdant de la semaine est Procter & Gamble, qui, comme Kraft, publiait des résultats meilleurs qu'attendus, mais des prévisions en ligne, contrairement à ce qu'attendaient les analystes. Barron's recommandait également Kraft par rapport à Procter & Gamble.
Et parlez-nous de la rumeur de la semaine, Ariane.
Certaines rumeurs attribuent la baisse des financières en fin de semaine à des commentaires de Meredith Whitney recommandant aux investisseurs de prendre leurs profits. Ces commentaires n'ont pas été confirmés.
Merci beaucoup, Ariane, et à la semaine prochaine.
USA Hebdo, Philippe Marty sur BFM Radio.
Et comme promis, USA Hebdo vous emmène tout droit en Californie où l'on rejoint Pascal Lévy-Garbois, cofondateur de Virtuose, une société qui développe de l'intelligence artificielle. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Merci d'être avec nous cette semaine dans USA Hebdo. Alors on vous retrouve pour suivre vos aventures, c'est votre carte postale de la Silicon Valley. Alors quelle est la grande tendance de cette semaine, Pascal ?
La tendance de cette semaine, c'est quelque chose qui montait un peu en puissance, c'est avec la crise, les relations se tendent beaucoup entre entreprises dans la Silicon Valley.
Oui.
Je ne sais pas si c'est la chaleur ou si c'est... Je pense que c'est plus généralement la crise, mais on voit que les relations se tendent. Par exemple, il y a eu des grands moments de tension récemment entre Apple et Google quand Apple a refusé une application Google pour l'iPhone. Donc ça, c'est, on va dire, au niveau des très gros. Et d'ailleurs, le PDG de Google est sorti du conseil d'administration d'Apple.
Ah, oui, oui.
Et puis, au niveau, on va dire, des startups, ça se traduit comment ? Ça se traduit par le fait que des entreprises qui ont des startups qui ont des gros clients, les gros clients négocient à mort les contrats et finalement quasi étranglent leurs fournisseurs startups. Ça se traduit aussi par le fait que, comme les levées de fonds sont plus difficiles et que le temps sont plus durs, souvent les équipes de management, les équipes de fondateurs se font virer de leur boîte par le conseil d'administration, par les nouveaux actionnaires et les PDG qui ont été mis en place.
Ouais, c'est très, très
violent.
De manière
violent, parfois très cavalière.
Ouais.
Donc c'est un peu le Far West en ce moment. Je pense que c'est vraiment lié à la crise et au fait que tout le monde se bat pour pouvoir ressortir de là le mieux possible et que comme il n'y a pas de quoi manger pour tout le monde, bah, tout le monde se bat pour être sûr d'avoir la part du lion.
Le tout est bien évidemment que ça ne dure pas trop trop longtemps, parce que c'est vrai que le Far West, ça peut être drôle quelques semaines ou quelques mois, mais si ça dure trop trop longtemps, ça risque de s'enquister et devenir extrêmement violent.
Exactement. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Heureusement, les gens ici sont positifs et ont l'habitude de ça, donc quelque part, ils savent gérer. Nous, on a eu des situations un peu comme celle-là récemment. Et on a une équipe de management qui est mixte avec des gens qui ont l'expérience ici et qui savent gérer. Mais c'est évident que c'est compliqué à gérer.
Alors Pascal, vous vouliez également nous parler d'un constructeur de voitures sexy. J'aimerais que vous m'en disiez plus là-dessus, ça m'intéresse.
Oui, alors j'avais déjà parlé il y a quelques mois de Tesla, qui est un constructeur de voitures électriques.
Oui.
Et ils font en fait des voitures, des roadsters électriques, donc des petites voitures rapides, et donc plutôt avec des belles formes, un beau design, etc.
C'est ce que vous appelez voiture sexy, donc oui, d'accord.
Que moi qui ne suis pas quelqu'un d'automobile, j'appelle ça des voitures sexy. donc c'est des voitures électriques, c'est ça ce qui est intéressant, c'est que c'est des voitures électriques qui sont complètement électriques, mais qui sont agréables à regarder et évidemment aussi agréables à conduire. Donc cette société-là qui avait été cofondée par un des fondateurs de PayPal, le service de paiement il y a 10 ans.
Oui, oui.
Donc, a annoncé aujourd'hui qu'elle était profitable pour le mois de juillet. Donc, elle a vendu pas beaucoup de voitures, elle a vendu 110 voitures, mais elle a réussi à être profitable.
Avec 110 voitures, oui, c'est pas mal quand même.
En vrai, c'est des voitures, ce qui est pas mal. C'est pas des voitures qui sont données, hein. C'est des voitures qui valent à peu près 100 000 dollars pièce minimum.
Mm-hmm.
Donc, c'est pas à la portée de toutes les bourses encore. Mais ils ont réussi à lever, à obtenir des prêts du gouvernement pour 475 millions de dollars de prêts du gouvernement pour pouvoir construire des usines et donc posséder des usines et diminuer leur coût de production considérablement pour pouvoir rendre ces voitures accessibles. Donc ce que je trouve intéressant dans cette nouvelle un peu positive, c'est que non seulement ils sont profitables, ce qui est toujours bon signe,
ouais.
Mais en plus, qu'ils vont pouvoir se développer. Et que de l'innovation va pouvoir venir de la Silicon Valley dans d'autres domaines,
oui.
Comme par exemple l'automobile.
Très bien Pascal, merci d'avoir été avec nous, cofondateur de Virtuose. Merci pour cette carte postale de la Silicon Valley. On se retrouve la semaine prochaine, USA Hebdo. Ça continue sur BFM Radio.
USA Hebdo, Philippe Marty sur BFM Radio.
Alors, en pleine période estivale, c'est le moment d'aller faire un petit tour aux États-Unis, d'essayer de se trouver les meilleurs plans pour aller coincer la bulle aux États-Unis. Nous partons en voyage directement avec Joachim Thuil du site hotel.com. Bonjour Joachim.
Bonjour Philippe.
Alors Joachim, c'est un événement, c'est l'événement fort de l'année. Hein. Nous allons beaucoup entendre parler dans les prochaines semaines. Cette semaine coïncide avec le 40e anniversaire d'un événement musical colossal, majeur, de la culture américaine. C'est le festival de Woodstock. Alors Joachim, que va-t-il se passer cette semaine ?
Eh bien Philippe, alors comme vous l'avez indiqué, cette semaine, ça fera effectivement 40 ans que le légendaire festival de Woodstock a eu lieu. Alors c'est vrai que c'est entre le 15 et le 17 août de l'année 1969 que la manifestation s'est tenue, hein, une manifestation véritablement mythique, comme vous le disiez, et elle incarne à elle seule l'esprit des années 60, de la contre-culture américaine et des années hippies. Alors... c'est vraiment un événement assez fort, effectivement.
Ouais, alors on se souvient, Joachim, des concerts célèbres de Jimi Hendrix, Janis Joplin, John Baez, ou alors Joe Cocker.
Oui, et bien effectivement, à l'occasion du 40e anniversaire, le monde de la musique va aussi fêter l'événement. Et c'est évidemment sur les lieux de ces concerts mythiques que vous pourrez le mieux sentir l'esprit de Woodstock.
Alors donc, tous à Woodstock ce week-end, en fait.
À Woodstock, ou pour être plus précis, même à Bethel, une petite ville d'à peine 4000 âmes au nord-est de New York, à une soixantaine de kilomètres de Woodstock. Alors, pour vraiment vous immerger dans les années 69, le mieux c'est quand même de partir depuis New York, qui est à 2 heures de route de Bethel.
D'accord. Donc c'est une sorte de road trip typiquement américain.
Absolument, et je vous suggère même de commencer votre itinéraire par les sites les plus significatifs de cette époque, à commencer par Manhattan, où vient de s'ouvrir un Rock'n'Roll Hall of Fame, ouais, en plein Soho, avec une superbe exposition qui a lieu en ce moment sur John Lennon, puis Going Up the Country, donc pour un retour en 69, et ensuite je vous suggère de poursuivre avec une traversée de la vallée de Hudson et ses villages de poupées qui sont fréquentés aussi bien par Rockefeller ou Roosevelt, ou même Bob Dylan, donc des gens très très différents.
Alors une bonne entrée en matière effectivement, et une fois à Woodstock, on fait quoi ?
Alors le village de Woodstock, il se situe vraiment en pleine campagne, il ne présente pas vraiment un intérêt particulier. En revanche, vous pourrez y faire une escale pour visiter une des nombreuses galeries ou prendre un verre dans l'un des cafés du village. Mais c'est vraiment à Bethel, donc la petite ville d'une population qui double ou triple chaque été, puisqu'elle est entourée de nombreux lacs qui attirent les touristes, qu'il faut aller pour vraiment retrouver les traces du célèbre concert.
Le lieu a-t-il vraiment changé en 40 ans, ou ça n'a pas trop bougé ?
Alors, si la ville elle a conservé sa taille modeste autour du célèbre champ, hein, le paysage a quand même pas mal évolué. Vous suivrez notamment un musée qui est entièrement rénové, un théâtre en plein air, une superbe scène vraiment magnifique sur laquelle se produisent désormais les artistes du Mountain Music Festival, et un simple monument commémoratif, quelque chose de vraiment pas spectaculaire, juste à côté des terres du célèbre fermier Max Yasgur, où des centaines de milliers de festivaliers sont passés à la postérité en 69.
Donc pas mal de choses à visiter, et que reste-t-il de l'esprit de l'époque ?
Bien, finalement, assez peu de choses. Alors, mais visiter Woodstock, c'est surtout une philosophie à imaginer. Hein. C'est vraiment une utopie qui reste gravée dans la mémoire collective. Et puis, en ces temps de crise, la nostalgie de cette époque reprend des couleurs. D'ailleurs, on attend près de 20 000 personnes pour les événements de commémoration.
Alors, côté musique, y a-t-il un événement à retenir ?
Oui, alors il y a malheureusement loin d'égaler l'ampleur de suite de l'année 69, mais il faut dire que Michael Lang, hein, qui a été l'une des quatre personnes qui a mis sur pied Woodstock en 1969, voulait donner un concert gratuit au Brooklyn Prospect Park pour célébrer le 40e anniversaire. Malheureusement, une manifestation, mais qui est loin d'égaler celle de 1969, il faut dire que Michael Lang, hein, qui a été l'une des quatre personnes qui a mis sur pied le festival en 69, voulait faire un grand concert gratuit au Brooklyn Prospect Park pour célébrer le 40e anniversaire. Malheureusement, c'est sans doute lié à la crise d'ailleurs, il n'a pas trouvé suffisamment de sponsors et il a été contraint d'annuler la manifestation. Donc on pourra se consoler avec le concert Heroes of Woodstock qui aura lieu le 15 août, donc samedi prochain, à Bethelwood Center for Arts. C'est une occasion de retrouver les vétérans de 69 sur les mêmes lieux que l'original. Vous trouverez notamment les groupes tels que Ten Years After, Can't Eat, Big Brother and the Holding Company, Country Club McDonald, Mélanie. Certes, ce ne sont pas les stars les plus connues de l'édition originale, mais elles seront sans doute recréées un peu de la magie de l'époque.
Il faut juste espérer qu'ils soient toujours en forme 40 ans après. Écoutez, hébergement, quelles sont les possibilités, Joachim ?
Eh bien, comme je le disais, Philippe, il y a quelques instants, l'idéal, c'est quand même, sauf pour les amateurs vraiment de nature préservée et de panorama, le mieux, c'est quand même de trouver un hébergement à New York. Alors, vous pourrez ainsi profiter pleinement des contrastes entre la région bucolique, hein, de Woodstock et la vie animée cosmopolite de Big Apple.
Alors, est-ce qu'il y a des économies à réaliser ?
Et en effet, comme beaucoup de destinations américaines, les prix des hôtels sont vraiment à la baisse. Alors, selon l'Hotel Price Index, hein, notre indice des prix des chambres d'hôtel, le prix a baissé de 27% par rapport à l'année dernière. Autrement dit, une économie de près d'un tiers un tiers du budget hébergement.
Et la ville regorge de manifestations intéressantes.
Tout à fait. Et pour finir, je voulais vraiment mentionner un événement qui se déroule Cette semaine aussi, et celui-là a lieu à Central Park, alors on est loin des années 70, hein, des années 60, c'est le Summer Stage Festival. Alors c'est un festival essentiellement gratuit qui réunit un important plateau de représentants d'horizons très divers. Alors il y aura du reggae, du hip-hop, du folk, de la musique du monde, des spectacles de danse ou même des one-man shows qui vont rythmer toute la semaine, toutes les après-midi de la semaine et les soirées. Et ça durera jusqu'à samedi prochain. Donc à l'affiche, il y aura des Frenchies. Hein. C'est amusant de retrouver quelques Français à New York, notamment Yannick Noah ou Coralie Clément. Mais il y aura aussi les Nubians, qui sont des Françaises qui chantent en anglais, par contre. Et il y aura également des artistes internationaux comme Ziggy Marley, Hugo Sangaré, Acha, Q-Tip, Alpha Blondie, Lee Scratch Perry ou même Chico de Barge. Donc vraiment une animation très diverse et dans des styles très variés. C'est gratuit, c'est à New York et ça se déroule à Central Park en ce moment même et toute la semaine.
Bon, bah de bonnes idées et tous à Woodstock, Joachim. Donc merci beaucoup, Joachim Tuil du site hotels.com. À la semaine prochaine, merci d'avoir été avec nous. USA Hebdo continue, restez sur BFM Radio dans une poignée de secondes. Nous partirons à la rencontre de deux patrons français installés aux États-Unis. Ils nous racontent leur réussite, ne bougez pas.
Promogym, promoteur constructeur spécialiste de l'immobilier résidentiel en France depuis 40 ans, vous donne le pouvoir de vivre ou d'investir en Méditerranée. Promogym, c'est pouvoir acheter en toute sécurité une résidence secondaire ou principale de qualité. Promogym, c'est pouvoir choisir parmi plus de 25 résidences de Marseille à Menton, situées au cœur des sites renommés tels que Mandelieu, Cannes, Antibes, Juan-les-Pins ou Nice. Pour acheter en Méditerranée, une seule adresse, promogym.fr, promogym.fr.
Le train-train, le train-train, le train-train, le train-train, le train-train, le train-train, le train-train. Le train-train, le train-train, le train-train, le train-train.
Et si le train-train vous lasse, changez de quotidien. Lisez Aujourd'hui en France. Le journal Aujourd'hui en France, c'est toute l'information 7 jours sur 7. 90 centimes chez votre marchand de journaux.
BFM Weekend, 7h30. Les infos. Julien Melcarec.
Et déjà des difficultés ce matin sur les routes. Nouveau week-end chargé pour les vacanciers partout en France. Ça coince déjà dans la vallée du Rhône avec des ralentissements à hauteur de Villefranche-sur-Saône près de Lyon. Autre perturbation entre Vienne et Valence avec les premiers bouchons sur l'autoroute A7. Ce samedi est classé rouge dans le sens des départs par Bison Futé. Même couleur pour les retours dans le sud-est et la région Rhône-Alpes. Le monde sur les routes couplé aux températures élevées donnera une nouvelle pollution de l'air à l'ozone dans les grandes agglomérations. Aujourd'hui, pour y faire face, le Var et les Bouches-du-Rhône ont décidé de maintenir leurs mesures de limitation de vitesse. Un nouveau camp de vacances peut être touché par le virus de la grippe A. Ça se passe au Cap d'Aille, près de Monaco, où 55 adolescents sont toujours confinés ce matin. Leurs 5 accompagnateurs sont également mis à l'écart. Il s'agit de jeunes étrangers venus perfectionner leur français cet été. On devrait savoir durant le week-end s'ils sont bel et bien contaminés. Le parquet de Mulhouse évoque d'éventuelles négligences et un défaut de surveillance après le décès tragique d'une fillette de 5 ans mardi au centre hospitalier de la ville. La jeune patiente est morte asphyxiée dans les barreaux de son lit, visiblement mal adaptée. 3 adultes mis en examen après l'accident de jet ski qui a coûté la mort à un jeune garçon de 9 ans sur un étang de l'Oise. Tout d'abord, un homme de 24 ans qui accompagnait le frère de la victime sur un scooter des mers. Il faisait la course qui a provoqué l'accident. 2 autres personnes, des hommes de 30 et 32 ans, sont également poursuivis. C'est à eux que les parents avaient confié les enfants pour tout l'après-midi. On commence à en savoir un peu plus sur les origines de l'attaque qui a totalement paralysé le site de microblogging Twitter jeudi dernier. Selon plusieurs sources, les pirates s'en seraient pris à ce site web pour en fait se venger contre un internaute pro-géorgien. Les cybercriminels pourraient être en fait des nationalistes russes qui auraient souhaité s'en prendre à un adversaire trop visible sur la toile. Twitter, de son côté, s'est borné à admettre, je cite, une connotation géopolitique dans cette attaque. Le football reprend ses droits ce week-end avec la reprise des championnats. Tout d'abord la Ligue 2, dont les matchs de cette nouvelle saison ont débuté dès hier soir. À retenir notamment la défaite de Strasbourg face à Châteauroux. Après cette première soirée, Angers et Vannes sont en tête du classement. Mais le plus attendu, ce sera ce soir avec la reprise de la Ligue 1. Les spécialistes annoncent un championnat qui devrait réserver son lot de surprises. Alors peut-être réponse dès ce soir. Les matchs débutent à 21h. Au programme, Monaco reçoit Toulouse, Auxerre affronte Sochaux. À suivre également Rennes, Boulogne, Saint-Étienne, Nice et Valenciennes-Nancy. Des rencontres à suivre, bien évidemment, en fil rouge ce soir sur BFM Radio. Mais pour l'heure, il est 7h34. On découvre ensemble la météo de ce samedi 8 août. Prévision signée Lise Rigé.
Ce samedi, les régions de la façade est débuteront la journée sous les orages et les averses, parfois soutenues des Ardennes à la Bourgogne jusqu'à Rhône-Alpes et au Languedoc. Le ciel est aussi très nuageux ce matin des Pyrénées aux frontières belges. Il laisse échapper quelques gouttes. Sur le nord-ouest, en revanche, le temps est calme, nuages et éclaircies alternent dans une ambiance fraîche avec pas plus de 11 degrés ce matin du côté de Nantes. Sinon, sur le pourtour de la Méditerranée, le soleil brille, mais Mistral et Tramontane soufflent fort avec des rafales de 70 à 80 km/h. Dans l'après-midi, peu de changements. Des coups de tonnerre vont éclater de l'Alsace aux Alpes, d'abord sur le relief avant de déborder en plaine en fin de journée. Du Bordelais au nord, ce sera assez agréable entre nuages et éclaircies. Partout ailleurs, le ciel restera maussade, sauf près de la Grande Bleue. Du côté des températures, on attend pour cet après-midi 19 degrés à Cherbourg, 20 degrés au Havre, 23 degrés à Biarritz, 24 pour La Rochelle, Besançon et Clermont-Ferrand, 25 degrés à Dijon, Toulouse et Paris, 26 pour Bordeaux et Nancy, 27 degrés à Strasbourg comme à Nice, 28 degrés à Ajaccio, 31 degrés à Perpignan et 34 au maximum pour Montpellier.
Et à 7h35 sur BFM Radio, on retrouve Philippe Marty, c'est la suite du SA Hebdo.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. We gather because we have chosen hope over fear.
USA Hebdo, Philippe Marty sur BFM Radio.
Et USA Hebdo, ça continue sur BFM Radio. Comme je vous le disais en début d'émission, nous allons aller à la rencontre de deux Français qui se sont lancés dans l'aventure de l'entreprise aux États-Unis. Ils vont nous raconter leur succès dans un instant. Bonjour Laurent Dufour.
Bonjour.
Vous êtes créateur de salon de coiffure et pour tout dire, alors nous nous sommes parlé un petit peu hors antenne pour préparer l'émission hier. Et vous vivez une aventure qui est passionnante. Qu'est-ce qui vous a décidé de partir, vous expatrier aux États-Unis?
Je vivais en Espagne pendant un moment, après avoir quitté Paris, j'ai vécu à Marbella et j'étais associé avec un autre gars à Marbella qui est décidé de bouger sur l'Amérique et je suis venu le voir en vacances et j'ai adoré, c'était à Los Angeles et je ne suis jamais retourné, je suis resté là-bas et j'ai commencé à travailler dans un petit salon et après...
Alors vous êtes coiffeur à l'origine, hein, c'est ça?
C'est ça, je suis coiffeur, oui.
Et donc vous commencez à travailler dans un petit salon et puis petit à petit...
Je travaille dans un petit salon juste pour 6 mois. Après, je bouge dans un autre salon. Je m'associe avec le patron au bout de 6 mois. Après, il me revend ses parts. Je m'associe avec quelqu'un d'autre, avec un autre coiffeur qui a un gros succès aux États-Unis aussi, qui s'appelle José Hébert. On ouvre 10 salons ensemble et après 10 ans ensemble, il m'a racheté mes parts et j'ai ouvert... notre petit salon moi-même, et de là, c'est parti. Je suis à mon 5e salon.
Ah, donc vous repartez sur une nouvelle aventure d'ouverture de salon et de...
Voilà, j'étais associé, après je suis parti sur une aventure tout seul, exactement.
Et pourquoi?
Avec ma femme, associé à ma femme.
Et alors pourquoi vous avez eu envie de partir sur cette aventure seul?
C'était pas vraiment que j'ai eu envie de partir, ça marchait très 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 bien, on avait 10 salons ensemble, c'est lui qui a voulu racheter mes parts. Et on n'était pas branchés sur la même longueur d'onde au point de vue mode. Et c'était bien pour tous les deux. C'était un mutuel accord. C'était très très bien.
Et aujourd'hui, vous êtes un patron heureux?
Un patron très très heureux.
Alors, à votre avis, Laurent Dufour, est-ce que une aventure telle que vous avez pu la vivre depuis combien, vous m'avez dit une...
Ça fait 30 ans maintenant.
30 ans aux États-Unis. Est-ce que vous auriez pu la vivre également en France avec le même niveau de revenus, la même flexibilité, à votre avis?
Impossible.
Pourquoi? Impossible. Pourquoi?
Oh, parce que je vois, moi j'ai tous mes amis avec qui j'ai commencé la coiffure qui sont toujours là-bas. Très peu sont devenus patrons, d'autres sont toujours employés. C'est beaucoup plus facile de faire une aventure comme ça aux États-Unis. Les Américains vous aident au maximum. Le point de vue des impôts, point de vue d'ouvrir un salon, c'est beaucoup plus facile qu'en France. La presse marche, vous aide énormément. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que je vivais à Los Angeles, d'être tout de suite j'ai tout de suite coiffé des stars, donc ça aide beaucoup. Donc,
ah oui, alors ça, vous m'avez raconté. Racontez-moi, vous avez coiffé qui comme star
J'avais beaucoup de télévisions stars, des filles comme le show 90, 210, comme Shannon Doherty, Melrose Place, toutes ces filles, je les coiffais. Mmh. Mais j'ai eu vraiment, comme ils disent, le break. ici quand j'ai coupé les cheveux très courts à Sharon Stone et à Gwyneth Paltrow pour son film Sliding Door la même semaine. Donc ça m'a amené du jour au lendemain, je me suis retrouvé en télé tous les jours, des magazines tous les jours. Un coiffeur aux États-Unis est très important, ça fait partie des gens, je vais coiffer des gens chez eux, des dames que leur mari sont des grands CEO de trucs importants, et les types sont très impressionnés par un coiffeur ici. On est invité partout, moi j'ai la chance, je vais coiffer, ils me fly dans des avions privés, des choses comme ça, ce qui n'arriverait jamais en France, je pense pas souvent du moins.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire, Laurent Dufour, ici en France, on a plutôt tendance à considérer la coiffure un peu comme un métier plan-plan. Là, aux États-Unis, apparemment, d'après ce que vous me racontez, c'est une vraie success story pour vous.
Exactement, c'est une vraie success story. Ouais.
Et en termes de revenus financiers, par an, est-ce qu'on peut donner une fourchette de ce que vous rapportent vos salons aujourd'hui?
Mais moi, j'ai deux salons, je suis propriétaire de deux salons, j'ai deux franchises, j'ai un spa et j'ai une ligne de produits de coiffure qui sont distribués dans à peu près 500 salons et le chiffre d'affaires est à peu près de 11 millions de dollars par an.
11 millions de dollars par an, un chiffre d'affaires que vous pourriez évidemment pas faire du tout en France.
Non, je pense pas.
Bon, alors maintenant, il faut...
Je pense qu'il y a des salons qui les font, il y a des grands salons, il y a des grosses chaînes comme Desange qui ont 1500 franchises, mais avec 4 petits... Moi, je suis propriétaire que de 2 salons. Ouais. Donc,
avec 11 millions de dollars par an, il va falloir maintenant venir attaquer l'Europe.
Ben j'essaye, c'est mon prochain projet parce que ma ligne de produits est prête pour l'Europe. Je suis en train de chercher des distributeurs. Je viens de mettre juste un bureau à Paris pour ça. Ouais. J'ai quelqu'un qui nous représente sur Plat France et c'est vraiment mon prochain rêve. On va passer du rêve américain au rêve français maintenant.
Ben voilà, oui, pourquoi pas. Et les produits sont prêts.
Les produits sont complètement prêts. Il a fallu les passer aux normes européennes. Maintenant, j'ai 27 produits dans ma ligne. J'en ai déjà 18, je crois, qu'ils sont prêts. Donc, on peut vraiment commencer une bonne petite ligne pour l'Europe.
Alors, à part ce rêve d'exporter vos produits ici en Europe, quel objectif vous avez maintenant pour continuer à vous développer aux États-Unis, développer ce merveilleux chiffre d'affaires
C'est d'ouvrir, de vendre ma ligne à beaucoup plus de salons, parce que ça coûte très très cher d'avoir des gens sur la route qui vous vendent des représentants. L'économie est assez dure en ce moment, comme tout le monde le sait, c'est pas un secret. C'est d'ouvrir. Mon goal, ce serait d'avoir à peu près 1000 salons qui vendent mes produits et d'avoir 2 ou 3 licences de plus. Je veux pas ouvrir partout. Je veux garder quand même la qualité du travail. Je suis très, très involved moi-même. Je continue à coiffer. Je fais toujours 10-15 clients par jour. Je fais 2 semaines à Los Angeles, 2 semaines à New York dans mes salons. Et je visite tous les autres, les gros acomptes de mes produits. Donc, je veux vraiment garder le contrôle. Je suis assez très pointu là-dessus sur la qualité du travail. Donc,
Laurent Dufour, pour terminer, quel conseil vous auriez éventuellement à donner à celui ou celle qui souhaiterait se lancer dans l'aventure business aux États-Unis?
De pas avoir peur. C'est un grand, grand programme. Il faut rentrer dans leur système, mais c'est beaucoup plus facile qu'ailleurs. Il faut pas penser qu'il y a... J'ai vu beaucoup de Français arriver ici en disant « Nous, on est les plus forts, les Américains, on va les avoir. » C'est pas du tout ça. Les Américains sont très, très, très forts. Si vous rentrez dans leur système, ils vont vous aider au maximum. Donc, prendre le chemin à suivre, les papiers d'abord, les licences, les visas... Ça paraît très compliqué sur papier, mais finalement, c'est pas compliqué du tout.
Merci Laurent Dufour d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous avez donc, vous m'aviez dit combien actuellement, plusieurs salons, 2, 3, c'est ça?
J'ai 5 salons au total et un spa.
Merci d'avoir été avec nous pour nous parler de votre aventure et de votre success story aux États-Unis.
Merci, je vous en prie. À bientôt.
À bientôt Laurent.
Au revoir.
Bonjour Jabril Ben Cédrine.
Bonjour Philippe.
Merci d'être avec nous. Alors vous êtes responsable de Triana Venture Partners.
Oui.
Vous êtes à New York, c'est ça?
Voilà.
Alors, il faut absolument que vous nous expliquiez ce qu'est Triana Venture Partners.
C'est un groupe qui a développé un incubateur d'entreprise ou une sorte de pépinière d'entreprise pour les PME françaises technologiques.
Ouais.
Qui souhaitent prendre pied sur le marché américain.
Alors là, c'est très important, puisque effectivement, là, vous êtes un petit peu le pont avancé des PME français qui souhaitent venir aux États-Unis, c'est ça?
Voilà, c'est ça. On est la base avancée qui leur permet de prendre un pied solide sur tout le continent américain, en fait.
Vous leur apportez quel type d'aide?
On a investi dans à peu près ce qu'il aurait fallu développé pour une PME sur environ une période de un an à un an et demi. Donc on leur apporte en fait déjà une économie assez substantielle puisque c'est un montant qui est, il faut compter à peu près entre 250 000 et 1 million de dollars pour pouvoir prendre, disons, solidement racine aux États-Unis.
Ouais.
On l'a déjà fait pour la PME française qui souhaite se développer. Mmh. Et puis aussi, on compresse le temps puisque non seulement elle fait cette économie, mais en plus, elle arrive immédiatement comme si elle avait déjà passé un an ou un an et demi à essayer de se développer aux États-Unis.
Alors vous avez, j'imagine, bon nombre de PME françaises qui souhaitent venir vous rejoindre. Vous avez beaucoup de dossiers?
Oui, des dossiers intéressants qui correspondent à nos secteurs d'activité sont moins fréquents malheureusement.
Mm-hmm.
Donc on en cherche des sociétés, des petites et moyennes entreprises innovantes dans le domaine des technologies qui ont un produit déjà sur le marché en France, voire en Europe, et qui pensent pouvoir le développer ou qui souhaiteraient examiner leur potentiel aux États-Unis.
Alors, Jabril Bensedrine, puisque vous en parlez à l'instant, je crois que c'est le moment de donner, je ne sais pas, le site internet sur lequel on peut vous joindre et déposer un éventuel dossier pour ceux de nos auditeurs que ça intéresse.
Oui, tout à fait. C'est trianagroup.com, T-R-I-A-N-A-G-R-O-U-P.com, trianagroup.
Et on se laisse guider, et j'imagine que là, on peut déposer un dossier assez facilement si on le souhaite.
Voilà, on peut prendre contact avec nous.
Alors vous-même, qu'est-ce qui vous a tenté dans l'aventure américaine?
Je suis arrivé, en fait, sur un poste académique, en fait, puisque j'étais maître de conférence en France, et j'ai été invité à l'Université de Californie à Berkeley, il y a à peu près 10 ans. Et comme j'avais participé à la création d'un incubateur en France et impliqué dans un certain nombre de secteurs technologiques, de fil en aiguille, j'ai eu des opportunités qui m'ont permis d'évoluer davantage vers le développement des entreprises, en fait.
Et l'aventure américaine vous tentait pour des raisons, on va dire, personnelles de business ou c'était juste une opportunité?
C'était essentiellement une opportunité, un intérêt de voir ce qui se passait aux États-Unis initialement.
Mmh.
J'avais pas l'intention de rester.
Ouais.
Mais en fait, les États-Unis, en fait, c'est un petit peu comme une tour de Babel, finalement. C'est, je pense que toute personne venant du monde entier peut s'y retrouver, puisque c'est vraiment une mosaïque. Et c'est ce qui est fascinant. On peut faire le tour du monde à New York, on peut faire le tour du monde en une journée, en se retrouvant dans quasiment tous les quartiers possibles et imaginables qu'on pourrait trouver n'importe où dans le monde.
Et aujourd'hui, vous y êtes depuis combien de temps aux États-Unis?
Depuis 11 ans.
Depuis 11 ans, oui.
Voilà, avec pas mal d'allers-retours en France, mais grosso modo 11 ans.
Alors si on revient à votre business de base et à Triana Venture Partners, quelles sont les clés pour une réussite aux États-Unis? On était tout à l'heure au téléphone avec Laurent Dufour qui lui a installé des salons de coiffure aux États-Unis, qui visiblement a une bonne pratique du business là-bas et qui gagne pas mal d'argent. Quelles sont les conseils qu'on pourrait donner à ceux et celles qui souhaiteraient tenter l'aventure business aux États-Unis?
D'une part, ne pas le faire de manière opportuniste, vraiment être sûr qu'il y a une place pour son produit ou pour la personne, en fait. Pour beaucoup, c'est un miroir aux alouettes. Mmh. Beaucoup de gens déchantent. J'entendais un petit peu la personne précédente, et c'est vrai, Laurent Dufour, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il disait. Ça nécessite beaucoup de persévérance quand même, donc c'est possible, mais il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit complètement facile, et il faut être très persévérant, ce qui veut dire aussi que pour une société française ou un entrepreneur français ou souhaitant venir aux États-Unis, il faut quand même assurer des arrières solides, très solides.
D'accord. Bon, je crois que le mieux, c'est d'aller sur votre site. Rappelez-nous l'adresse.
C'est trianagroup.com.
Jabril Bensedrine, merci d'avoir été avec nous. Et puis bonne chance pour la suite du business aux États-Unis.
Merci à vous.
US Hebdo sur BFM Radio n'est pas terminé. Vous le savez, rendez-vous dans quelques secondes pour la suite et la fin de cette émission autour de l'actualité américaine de la semaine. A tout de suite.
Cet été, BFM Radio ouvre le grand livre de l'économie. Les dossiers de BFM Radio avec David Doba, spécial Saga des marques.
Je vous retrouve samedi à partir de midi pour retracer l'histoire de Monoprix et comprendre ensemble comment l'enseigne a su s'adapter pour trouver définitivement sa place en plein cœur du centre-ville.
Tout l'été, feuilletez les dossiers de l'écho sur BFM Radio.
Décrocher la lune, conquérir l'univers, exiger le beurre, l'argent du beurre, puis une place surclassée sur un vol surbooké et une berline suréquipée pour 1 euro de plus. Vous qui en voulez toujours plus, vous allez être servi. Devenez l'un des 2000 membres élites de Bourse Directe et bénéficiez d'une offre tout compris. Accès privilégié à notre salle de marché, ordre par téléphone, info d'experts et bien plus encore, sans aucun frais annexe. Renseignements au 0800 110 440. Appel gratuit depuis un poste fixe. Tarif élite 0,30% du montant de la transaction. Voir détails sur boursedirect.fr.
Envie de rouler l'esprit tranquille? Avec Grâce à Voix Auto Premium, vos belles mécaniques sont assurées en première classe. Véhicule volé dans votre garage? Il vous sera remboursé à sa valeur d'achat, vénale ou agréée, selon votre choix. Pour votre protection personnelle, c'est un capital garanti jusqu'à 600 000 euros sans franchise. Et en cas de litige, nos juristes sont là pour vous garantir une vraie protection juridique.
Demandez votre devis par téléphone au 0800 100 477. Appel gratuit depuis un poste fixe ou par internet, particulier avec un s.graceavoix.com.
Connectez-vous sur bfmradio.fr et découvrez tout BFM Radio sur le net. bfmradio.fr. Info, bourse, entreprise, suivez le fil info du jour. bfmradio.fr, banque, business, société, consultez les dossiers de la rédaction. bfmradio.fr, devises, indices, palmarès, surfez sur les plus grandes places boursières. bfmradio.fr, toute l'info éco qu'il vous faut. bfmradio.fr.
Come on, say it. USA Hebdo, Philippe Marty sur BFM Radio.
Et retour dans USA Hebdo sur BFM Radio, toujours avec Paul Jorion. Autre sujet qui monopolise la presse américaine cette semaine, le contrôle par l'administration Obama. Un petit peu maladif ce contrôle de l'information et des rumeurs. Le président américain, qui on le sait, bataille en ce moment pour tenter de faire passer sa réforme du système de santé, eh bien, demande à ses partisans de lui faire parvenir par e-mail toute information douteuse ou rumeur qui circule sur ce projet. Une requête qui a été formulée officiellement cette semaine sur le blog de la Maison Blanche. Alors pour faire soft, les journalistes américains craignent pour la liberté d'expression. Paul Jorion, vous en pensez quoi de ce contrôle, on va dire un petit peu maladif? On a l'impression que la Maison Blanche cherche à mettre un petit peu la main sur les informations comme ça régulièrement.
Oui, non, je crois pas que ce soit ça. Il y a en ce moment, l'extrême droite américaine est en train de se réveiller et d'essayer de produire des mouvements de foule contre l'administration du président Obama. Si vous avez vu l'éditorial de Paul Krugman aujourd'hui sur le New York Times, il est consacré à la même chose. Paul Krugman voit un plan dont il voit la première phase à l'époque de la nomination du président Bush, où des manifestations spontanées, dit-il, étaient en fait organisé par des apparatchiks du Parti républicain. Alors apparemment, on voit la même chose en ce moment contre le plan de réforme de l'assurance maladie aux États-Unis. Il y a des réunions de quartier qui sont organisées pour qu'il y ait des débats autour de ces projets, et ils sont systématiquement rendus impossibles par un boycott assez violent, verbal, une impossibilité pour les orateurs de parler, organisée par l'extrême droite américaine. Donc il y a cette polarisation au sein du pays dont je parlais tout à l'heure. Mmh. Et dans ces conditions-là, oui, la Maison Blanche s'inquiète d'une attitude assez séditieuse de l'extrême droite qui essaie de créer une polarisation à l'intérieur du pays. Mmh. Vous avez mentionné le nom de Rush Limbaugh. Rush Limbaugh est une personnalité bien connue des milieux d'extrême droite. Dans ce cas-ci, je ne crois pas qu'il y ait de réaction du tout excessive de la part de la Maison Blanche. Il y a une offensive menée contre elle de manière systématique, et vous avez, comme vous l'avez noté, il y a un certain regain dans la base populaire, un certain regain de racisme qui s'est exprimé à propos de la nomination de Mme Sotomayor et de la remise en question du président Obama. Il y a ce mouvement qui prétend qu'il n'est pas né aux États-Unis et qui n'est donc pas citoyen américain, reprend du poil de la bête.
Et la semaine dernière, on se disait ensemble dans USA Hebdo, par rapport donc au débat sur les origines de Barack Obama, on se disait aussi que ce type de rumeurs et de polémiques était quand même assez marginal et ne pouvait tout de même pas faire vaciller la Maison Blanche. Vous êtes d'accord avec cette interprétation ou plus nuancée?
Mais on voit prévoit effectivement une offensive sur plusieurs fronts. Il y a ces birdies, comme on les appelle par le mot birth, qui remettent en question sa percée. La dissatisfaction dans le public, le désenchantement du fait de l'incapacité du président de changer le milieu financier, c'est un terreau, un terrain favorable pour toutes les insatisfactions. Et comme il n'y a pas véritablement de mouvement progressiste aux États-Unis qui puisse en tirer parti, le populisme est un populisme de droite ou d'extrême droite.
Alors, par rapport à cette réforme du système de santé, c'est l'un des biais, l'une des fenêtres d'attaque précise donc de ces groupes dont vous nous parliez, organisés et qui empêchent donc les débats de quartier. C'est le point d'entrée qui peut éventuellement poser des problèmes et court-circuiter le débat.
Oui, parce que par exemple, il y a une des rumeurs qui est lancée, par le Parti républicain contre le plan de santé, qui est la rumeur qui est assez ridicule, mais qui a apparemment un écho très sérieux dans le public. C'est l'idée que ce plan de santé est un encouragement à l'euthanasie et à la un encouragement aux vieillards de s'enrôler pour un programme de suicide volontaire. Mmh. Bon, c'est évidemment il y a un tout petit élément de vérité qui est le fait que le plan prévoit en effet un conseil possible sur la fin de la vie proposé aux personnes âgées, mais cet élément-là a été retiré hors du contexte et est présenté comme un argument massu, c'est-à-dire que le nouveau plan va faire des économies en se débarrassant des vieillards.
Oui, donc on imagine bien évidemment que cet aspect sorti de son contexte soit très très impopulaire aux États-Unis, notamment s'il est un petit peu mis en exergue par les groupes dont vous nous parliez à l'instant.
Oui, c'est un des éléments dont Krugman parle dans son éditorial d'aujourd'hui. Il est très indigné. On voit sa colère devant le fait que certains politiciens ne reculent devant absolument rien pour mettre en danger ce plan. Évidemment, les personnes qui sont à l'arrière-plan de ce boycott ou de cette activité, cette propagande négative, et sont évidemment les groupes qui sont intéressés à ce que ce plan capote. Ce sont toujours les mêmes qui avaient eu la peau du projet de Mme Clinton à l'époque, c'est-à-dire l'industrie pharmaceutique et l'assurance maladie privée, qui seraient les grands perdants, bien sûr, de la mise en place de ce plan.
Et est-ce que, à votre avis, le fait que la Maison-Blanche réagisse ou surréagisse, selon certains, à toutes ces attaques ou à toutes ces rumeurs, n'est pas non plus aussi l'expression d'une incapacité à gérer cette information au quotidien, ces rumeurs au quotidien?
Non, c'est la politique, c'est la même politique qui avait torpillé la candidature de Monsieur Kerry. C'est que une certaine partie de la classe politique américaine ne recule devant absolument rien pour faire passer ses idées. Il y a dans le paysage américain politique, il y a un certain nombre de personnes pour lesquelles la fin veut les moyens. Bon, c'est ce courant qui avait été représenté l'administration Bush par M. Cheney et ses collaborateurs.
Alors on s'imagine bien que dans la presse, cette présence importante de la gestion de l'information par la Maison-Blanche ou de cette envie de contrôle des rumeurs, on imagine bien que dans la presse et chez les journalistes, ça pose quelques soucis aussi.
Les journalistes qui soulèvent cette question sont des journalistes de droite et d'extrême droite. Une administration doit effectivement se défendre à ce niveau-là aussi. Elle ne peut pas accepter que uniquement de l'information fausse soit diffusée à propos de sa politique. La protestation sur des infractions possibles à la liberté d'expression ne viennent que de ces courants, comme je le dis, comme de M. Rush Limbaugh et d'autres talk host à la radio, c'est-à-dire des milieux qui ne sont pas eux-mêmes des milieux extrêmement démocratiques et qui souvent, ce sont les mêmes milieux qui prônent la sécession en ce moment aux États-Unis, la dépendance des différents États, etc. C'est un mouvement séditieux et je crois qu'il est normal que la Maison-Blanche prenne ses précautions à ce niveau-là.
Oui, alors c'est vrai qu'on parlait de Rush Limbaugh, il est particulièrement virulent, on n'a pas l'équivalent nous ici en France, il faut s'imaginer effectivement que Rush Limbaugh mène véritablement une campagne sur les médias contre Barack Obama.
Oui, une personnalité de ce type, je crois, la classe politique réagirait et ne lui permettrait pas d'avoir une telle audience dans un pays comme la France.
Alors j'aimerais que juste quelques minutes on revienne donc sur les chiffres du chômage puisque c'est quand même la grosse actualité de cette fin de semaine. Le chômage qui baisse très très légèrement aux États-Unis de 9,4 à 9,5, enfin 9,4 au mois de juillet, c'est la première baisse affichée depuis le mois d'avril 2008. Ce qu'on se disait en début d'émission, Paul Jorion, c'est que bon, c'est une baisse de façade et qu'il n'y a pas de quoi, en tout cas pour l'instant, crier victoire et dire que nous sortons tous de la crise.
Non, on considère qu'un signe de sortie de la crise serait une baisse de la une perte d'emploi qui serait de moins de 150 000 emplois par mois. Or, on n'en est pas encore là. Donc, on n'a pas encore même, je dirais, le signe d'une sortie de la récession. Elle continue. Là, il y a une certaine décélération dans l'aggravation du problème. En fait, une décélération dans l'aggravation, il faut être vraiment très optimiste pour y voir un signe positif.
Merci beaucoup, Paul Jorion, d'avoir été avec nous dans USA Hebdo aujourd'hui. À très, très bientôt. USA Hebdo, c'est terminé. Rendez-vous la semaine prochaine sur BFM Radio. D'ici là, portez-vous bien. Je vous rappelle quand même que vous pouvez réécouter cette émission sur le site de BFM Radio, www.bfmradio.fr. À la semaine prochaine.